Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va parler plus électronique. Je reçois le DRH de Soitec. Il recrute 100 hauts potentiels pour son site de Grenoble et de Singapour. Il va essayer de nous séduire. On va parler onboarding. Welcome, bienvenue dans l'entreprise. Eh ben non, il n'y a plus personne en fait pour vous recevoir. Être nouveau, c'est pas simple en temps de crise sanitaire. Comment permettre aux nouveaux de se sentir bien en 2021? C'est la question qu'on va poser à Nathaniel Philippe. Il est CEO de iTeam. Et puis, on est obsédé par la formation à Happy Boulot Le Mag. Quelles sont les formations avec lesquelles vous allez jusqu'au bout et celles que vous arrêtez avant la fin? Ça sera notre business case avec Arnaud Portanelli de Lingueo. Happy Boulot Le Mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Pascal Lobry, DRH de Soitec. Bonjour, merci Bonjour, d'être Laure. Avec nous. Soitec, entreprise pas très connue en France, mais qui est quand même un fleuron de l'industrie qui conçoit et produit des matériaux de semi-conducteurs. En gros, c'est le matériel pour faire les petites puces qu'on a dans nos smartphones, mais aussi dans les voitures, dans tous les objets connectés. Côté OSBF 120, entreprise grenobloise. Le siège est toujours à Grenoble, c'est là où il faut aller pour bosser chez Soitec.
Effectivement, Grenoble est le berceau de la société. En fait, les technologies dont vous parlez, c'est ces matériaux que nous fabriquons, que nous avons inventés, ça vient d'une technologie du CEA, d'un laboratoire qui se trouve à Grenoble. L'entreprise est née à Grenoble et continue de grandir à Grenoble. Donc oui, c'est là. L'essentiel en France se trouve là-bas. Nous avons notre siège, nous avons notre principale usine, toute l'innovation est à Grenoble.
C'est un atout pour attirer des talents d'être à Grenoble ou c'est un frein ?
C'est un bassin d'emploi qui est dynamique, Grenoble, notamment sur les métiers d'ingénieur. Il y a énormément d'entreprises, il y a beaucoup d'emplois. Il y a la nature. Si vous avez vu les photos de Soitec autour, un écrin entouré de montagnes. Donc il y a beaucoup de gens que ça tente, surtout en ce moment, de quitter les très grandes villes, de pouvoir se mettre au vert. Et c'est quelque chose que je mesure dans les entretiens, y compris avec des cadres dirigeants, de cette envie d'aller un peu au calme, au vert, dans la nature. Et dans ce cas-là, c'est un atout. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être un élément de réflexion, de choix familial, etc. Mais c'est pas un handicap, en tout cas.
Vous n'avez jamais dit, tiens, il faudrait aller ailleurs, faire un autre centre à Paris? Jamais.
On a eu par le passé une activité solaire dont les bureaux étaient à Paris, effectivement. Mais le monde de la microélectronique et du semi-conducteur en France, Grenoble est un peu une Silicon Valley en Europe pour cette industrie. Donc c'est une place très légitime.
Vous employez 1600 personnes dans le monde, 1460 en France. Quelle est la part d'ingénieurs là-dedans ?
La part d'ingénieurs, c'est presque une moitié. Donc c'est important. On a une industrie assez automatisée. Donc par contre on a beaucoup de développement de R&D. Donc on a un nombre d'ingénieurs très très significatif et en croissance. Comme vous le savez, nous recrutons.
Mais vous lancez là depuis le début du mois de janvier un programme de recrutement de 100 personnes qui s'appelle Elevate. C'est suffisamment, c'est pas tellement courant de recruter en ce moment, même si toutes les entreprises sont pas en difficulté. 100 personnes, 100 au potentiel.
100 personnes qui vont nous aider dans les 100 jobs différents qui sont ouverts. Donc tous les emplois ne sont pas les mêmes. Oui, à Soitec, on aime bien. Recruter des potentiels parce qu'on a une entreprise qui sait garder ses collaborateurs longtemps.
Alors comment elle fait ?
Quand je suis arrivé à Soitec, quelque chose m'a frappé, c'est la fierté à tous les niveaux de l'entreprise, qu'on parle des opérateurs en salle blanche, des différents responsables, des ingénieurs, etc. La fierté qui anime tout le monde à Soitec de faire ce travail, de travailler dans cette entreprise, d'avoir eu des moments difficiles par le passé, aujourd'hui d'avoir des résultats très... Enfin, exceptionnel et très encourageant, il y a une vraie fierté, et à Grenoble de manière générale, une vraie fierté vis-à-vis de cette entreprise qui est une pépite technologique en France. Donc les gens restent, et pour cette raison, il est important de pouvoir les faire grandir. Et le potentiel, c'est ça, c'est la capacité à évoluer, à grandir.
Vous, vous avez été DRH dans la mode, vous avez été DRH chez SPI aussi, qui est service pétrolier. Vous dites qu'il y a une fierté de travailler dans une entreprise de pointe. C'est quoi? C'est l'industrie? Qu'est-ce que ça change, les semi-conducteurs?
Alors, je crois que la technologie, bien sûr, est un sujet de fierté. Mais aussi la culture de l'entreprise qui a vécu des moments difficiles où tous ensemble, les salariés se sont attelés à redresser l'entreprise, et avec le succès que vous connaissez aujourd'hui. C'est pas uniquement la technologie, c'est
cette aventure. L'entreprise combative, il y a une idée vraiment de défense de cette pépite industrielle.
Tout à fait. Il y a un attachement à la marque, au produit, à sa présence à Grenoble. C'est très presque touchant, émouvant de voir à quel point chacun a à cœur cette entreprise.
Mais du coup, quand vous allez recruter, là, par exemple, ces 100-là, mais d'autres, vous vérifiez quoi? Que les gens connaissent bien l'entreprise, qu'il y a cette envie, le semi-conducteur, peut-être que tous les talents ne connaissent pas. Est-ce qu'il faut qu'ils se soient intéressés à ce tech avant de rentrer?
C'est pas un examen de passage, hein, un entretien de recrutement.
Bah, ça pourrait, hein, vérifier les connaissances sur l'entreprise.
Mais le plus souvent, les candidats viennent pas par hasard, donc ils se sont renseignés. Je suis même impressionné par la plupart des candidats, à quel point ils ont potassé, regardé toutes les informations qu'ils pouvaient recueillir, écouté les interviews de notre directeur général. Et en général, tout ça fait qu'ils arrivent déjà gonflés à bloc, parce qu'ils voient plein de choses très positives dans différents domaines, que ce soit les résultats financiers, l'engagement dans le développement durable, les carrières qu'on propose, bon, tout ça.
Qu'est-ce que vous allez rechercher là, chez les hauts potentiels que vous allez recruter? Comment vous allez les différencier? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en avant?
Alors, chaque poste, vous avez compris, on est dans une entreprise de haute technologie, chaque poste a des prérequis bien précis.
Oui, mais est-ce que vous mettez la barre sur les soft skills, sur en dehors vraiment du CV? Est-ce que...
Alors, oui, ce qu'on essaie de faire, c'est pas forcément mettre une barre, mais ensemble avec le candidat, anticiper au mieux comment l'intégration va se passer, quelle différence la personne va apporter. On est déjà un certain nombre, un nouveau, une nouvelle, eh bien c'est une richesse en plus. On essaie de voir quels sont ces éléments de diversité, d'originalité qui vont enrichir la palette de l'entreprise. Et puis d'imaginer comment à la fois la personne va réussir à s'intégrer, comprendre. Effectivement, vous avez raison, l'entreprise c'est des métiers très complexes et il y a un temps d'apprentissage et il faut prédire que ça va bien se passer, c'est toute cette... acquisition de connaissances propre à Soitec, que on va bien s'intégrer dans l'équipe, mais aussi qu'on va peut-être aussi bousculer certaines habitudes, apporter des idées nouvelles, apporter du changement. C'est aussi important, c'est à ça que ça sert aussi les recrutements.
C'est quoi votre canal de recrutement? Les grandes écoles, LinkedIn, vous diversifiez?
Alors, LinkedIn est, bon, c'est pas original, bien sûr, un vecteur essentiel de nos recrutements. Nous travaillons parfois sur certains postes avec des cabinets. Notre propre site diffuse toutes les offres et certains candidats se positionnent sur le site de Soitec. Les grandes écoles, pas forcément. C'est une entreprise, Soitec, qui a une culture de chercheurs, donc beaucoup ont fait des thèses de physique, des thèses dans les différents métiers de l'ingénieur. Donc c'est un parcours qu'on connaît bien d'accueillir des thésards, mais il y a aussi des ingénieurs de différentes écoles, de différents renommés, disons.
Est-ce qu'il va falloir être proactif, aller les chercher rien qu'en annonçant que vous en avez 100, vous avez déjà reçu 1000 CV pendant qu'on parle?
On fait les deux. On reçoit en ce moment beaucoup de CV, évidemment, et il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui recrutent de manière active ces derniers temps. Donc forcément, nos opportunités intéressent. Mais on n'est pas non plus une entreprise aussi connue, vous l'avez dit
c'est
tout
vrai,
à l'heure.
C'est vrai, mais quand même, vous faites partie du SBF 120, ouais. Ceux qui suivent la bourse vous connaissent bien, entreprise de haute technologie, quand même, ça attire.
Mais il y a
un intérêt quand même. Donc vous, vous avez bien un prisme où vous dites, je ne sais pas, est-ce que sur les 100, vous voulez 50 femmes? Est-ce que vous voulez la moitié issue de tel type de cursus?
Alors, c'est bien que vous posiez la question des femmes. Dans l'industrie électronique, traditionnellement, c'est un métier archi-masculin. Si on nous voyons nos concurrents, j'ai vu une enquête la semaine dernière d'un organisme qui fédère les entreprises de semi-conducteurs. À l'échelle mondiale, 10% des postes techniques sont occupés par des femmes. À Soitec, aujourd'hui, dans nos recrutements de cadres, ce dont on parle là en ce moment, nous recrutons 40% de femmes.
Donc avec une proactivité, quoi, avec une volonté vraiment...
Avec une proactivité, et aussi parce que ça se sait et que les femmes se positionnent, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a à cœur, effectivement, de se rapprocher de la parité. La question de la diversité, ce n'est pas seulement la question homme-femme, mais c'est un élément important. Et c'est un élément très différenciant par rapport au secteur du semi-conducteur ou de la microélectronique. Soitec se démarque dans ce domaine-là.
Je vais vous faire le même quiz RH que tous les DRH qui passent à votre place. Vous me dites si on continue ou on arrête. Le CV classique, on continue ou on arrête?
On continue.
Les horaires, on continue ou on arrête?
Alors, il y a une activité en usine, donc on continue pour ça.
Pour les postes de cadre?
Pour les postes de cadre, non, il n'y a pas d'horaire.
On s'en fiche. Les tests de personnalité, vous en faites ou pas?
Non.
Les team building, quand on pourra enfin arrêter de faire des team building sur Zoom, est-ce que vous mettez en place ce type d'activité?
J'aime pas le mot, mais on aime bien être ensemble.
Oui, moi ça c'est sûr. Les chief happiness officers, vous en avez ou pas?
On a des gens heureux, on s'intéresse à la qualité de vie au travail, mais on n'a pas.
Il n'y a pas de poste dédié?
Non.
Les livres de coaching, vous en lisez ou pas?
Non, je suis certifié coach.
C'est déjà pas mal. Mais vous ne lisez pas les livres de développement personnel?
Non.
Les écoles dans chaque entreprise, est-ce que vous allez vous mettre à faire une école Soitec pour former vos propres collaborateurs?
Alors, on a tout un corpus de formation, oui, mais pas une école Soitec. On forme notamment au management, parce que les formations d'ingénieurs et notamment les formations par la recherche ne préparent pas beaucoup au management. Donc, on accorde beaucoup d'attention à former nos futurs managers à ce rôle-là, qui est très important. C'est le principal volet de nos formations internes.
LinkedIn, vous me disiez vous recrutez sur LinkedIn. Est-ce que vous, à titre personnel, vous y êtes et est-ce que vous êtes actif?
Oui.
On peut vous parler sur LinkedIn, vous répondez?
Oui.
Votre boîte est ouverte. En vrai, attention, je teste. Après, je vérifie. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Happy Boulot Le Mag. On va parler onboarding. Comment faire en sorte que les salariés se sentent bien quand ils arrivent dans une entreprise alors qu'il n'y a personne?
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. Better Together.
Et pour parler onboarding, on est avec Nathaniel Philippe, CEO de iTeam. C'est une plateforme d'onboarding. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est pas facile aujourd'hui quand on rentre dans une entreprise, qu'on est nouveau. Avant, parfois, on était attendu. Là, on est attendu, mais on est chez soi. Ouais. Est-ce que les entreprises qui sont vos clientes vous laissent une page blanche en disant « Écoutez, moi, je ne sais pas comment faire. Donnez-vous nouvelles idées. »
Tout à fait. Bah, bonjour, merci de m'accueillir ici. Je suis ravi d'être là. Donc, l'onboarding avec la crise qu'on vit est complètement transformé puisqu'il n'y a plus d'onboarding physique. Donc, on parle d'onboarding à distance, d'intégration. Ça révolutionne complètement ce sujet puisqu'on perd le côté humain qu'on connaissait quand on arrivait. Et forcément, les entreprises sont un petit peu perdues et en demande. Et en effet, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui nous demandent de les accompagner, de trouver des idées un peu fun, innovantes, pour faciliter ce sujet.
Si on oublie le Covid, 3 secondes, vraiment que 3 secondes, ça existe encore les boîtes qui ne s'intéressent pas à leur stratégie d'onboarding, c'est-à-dire qu'il y avait des salariés qui arrivaient le premier jour et que personne n'attendait?
Oui, tout à fait. En fait, la question, c'est finalement pourquoi l'onboarding? Pourquoi c'est important? On voit que ça permet d'améliorer l'engagement des collaborateurs, leur implication. Ça va permettre... deuxièmement, qu'ils puissent être intégrés à la culture de l'entreprise, et puis le ramp-up, c'est-à-dire la formation, qu'ils puissent être formés. Donc, beaucoup d'entreprises n'étaient pas forcément hyper impliquées sur ce sujet d'onboarding, et on voit que depuis quelques années, il y a une vraie transformation et qu'on a des solutions comme les nôtres et
iTeam. Les premières minutes, les premiers jours sont essentiels, en fait, dans la manière dont on va juger l'entreprise.
Tout à fait. En fait, on va même parler de pré-boarding, donc c'est avant l'arrivée. Et donc prendre contact avec le collaborateur avant même qu'il arrive, ça répond à un enjeu de fidélisation et de turnover, puisqu'on a énormément d'entreprises qui voient leurs collaborateurs même pas arriver le jour J. Ça peut arriver dans des secteurs qui recrutent énormément, comme le conseil.
Ils viennent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu de texto la veille leur disant coucou, on t'attend.
Ouais, parce que parfois c'est des étudiants qui sont recrutés jusqu'à 6 mois avant et en fait ils sont vraiment demandés, c'est le cas des développeurs.
Ils sont ailleurs en fait. Ils sont chassés.
Et donc s'il n'y a pas cette relation qui est maintenue pendant les 3, 4, 5, 6 mois avant l'arrivée, il peut ne pas arriver. Et donc du coup, l'intégration répond à ces enjeux-là de turnover et de fidélisation.
Alors comment on fait là, en pleine crise sanitaire ?
C'est compliqué et c'est vrai que une plateforme digitale a toute son importance. J'aime bien me raccrocher au concept des 4 C qu'a pensé une professeure en ressources humaines aux États-Unis. Donc c'est les 4 C de l'onboarding, la clarification, les connexions, la compliance et la culture d'entreprise. Et donc un enjeu qui devient encore plus important, c'est les rencontres et la connexion. Comment j'aide le collaborateur à tisser un réseau dans l'entreprise? On a énormément de
feedback. Mais là, il ne va pas enchaîner les Teams. Comment on fait?
Ça peut être une solution, malgré tout, de bien préparer son planning pour qu'il ne soit pas seul. Parce qu'on a des retours de collaborateurs qui nous disent j'arrive pas à m'identifier à la boîte. Je suis complètement seul chez moi. Et en fait, je ne suis pas engagé dans l'entreprise. Et même dans des grandes entreprises donc, qui sont assez sexy, on a ce retour-là. Donc,
mais ça veut dire que tout ce qu'il faut lui faire au départ, c'est un planning à celui qui rentre dans l'entreprise?
Alors, c'est tout un. Ça va être par exemple une bonne idée, ça va être de l'associer avec un buddy, un parrain qui va l'aider à l'intégrer. Ça va être des plannings de rencontres avec différents collaborateurs. Ça peut être des jeux aussi pour pas que ça soit que tout de suite professionnel, mais que ça soit un peu plus sympathique et ludique. Ça peut être des défis, en fait, des quiz, des challenges. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, même à distance. Et c'est pour ça qu'une plateforme digitale devient un must-have dans ce contexte.
Alors, comment on fait pour arriver à sentir les petits trucs de l'entreprise, la culture, les non-dits, tout ça, qui sont tellement utiles quand on arrive dans une entreprise?
Bon, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire passer à distance. Mmh. C'est une évidence. Par contre, on peut faire beaucoup malgré tout, et donc ça va être des rencontres, ça va être des loteries, ce qu'on appelle des petits cafés roulettes, donc faire en sorte que les personnes puissent se rencontrer.
Donc on fait tourner et on pif quelqu'un avec lequel prendre un café.
Un café par exemple, c'est des trucs un peu fun, un déjeuner avec le CEO, même à distance.
Déjeuner à distance avec le CEO ?
Ouais, tout à fait.
Mais ça fait peur ça quand on est nouveau ?
Justement, ça peut être du top management et ça permet de déjà expliquer la stratégie de la boîte, que la personne puisse aussi se familiariser avec la vision. Et justement, c'est très important d'enlever un petit peu les mythes qu'on peut avoir autour de ça pour rapprocher le collaborateur de l'entreprise.
Remarquez, ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu faire en physique. Le déjeuner comme ça chez soi, vous êtes à peu près sûr que tout le monde est là, il n'y a pas de resto, de toute façon.
Les gens sont à l'heure.
Ouais. Non, mais ça ouvre de nouvelles possibilités.
Bien sûr, mais il y a plein de sujets autour de ces nouveaux modes de collaboration et de l'engagement collaborateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a tout un module sur A-Team autour de l'engagement et faciliter l'organisation du télétravail pour les entreprises.
Est-ce qu'il faut faire là, en ce moment, avec la crise sanitaire, encore plus attention aux nouveaux arrivants qu'avant ?
Plus que jamais. Et d'ailleurs, on le voit bien, les entreprises, elles ont pris le sujet à bras-le-corps. Nous, cette année, même en temps de crise, on a réussi à faire une croissance de plus de 150%. C'est juste énorme. Pourtant, on est sur du recrutement. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises et de leur donner plein de petits tips, d'idées autour de l'intégration.
Merci beaucoup, Nathaniel Philippe, d'être venu nous voir,
merci
CEO de A-Team. On va parler, nous, de formation.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Et on est avec Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo. Bonjour, merci d'être avec nous. Il faut qu'on raconte aux gens qui nous regardent que je vous ai fait travailler en secret pour moi. Je voulais savoir quelles sont les formations les plus suivies, celles qui ne le sont pas et celles qui sont arrêtées jusqu'au bout. Donc vous avez sondé votre communauté pour BFM Business et pour Happy Boulot, le mag, et vous avez donné les résultats.
Qu'est-ce que dit ce sondage? Alors, question chiffre. Avant de parler rapidement de ce que les gens s'engagent à faire sur l'année prochaine, je voulais juste revenir sur cette année, l'année 2021, l'année précédente, puisqu'au Conseil des ministres, cette semaine, donc, il y a eu les chiffres récapitulatifs, de l'année 2020, et ce sont des chiffres que je trouve très prometteurs et intéressants. Donc, il y a eu 930 000 personnes qui ont fait une formation dans le cadre du compte personnel de formation, ce qui prouve un engouement pour la formation des Français. 350 000 Français, en plus de ces 900 000, se sont formés dans le cadre du plan de formation qui s'appelait le FNE, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité partielle, donc sur cette période-là. donc 350 000 personnes. Je trouve ça très bien, surtout qu'on est donc à 75% des objectifs du gouvernement qui s'est fixé un cap des 1 500 000 personnes formées sur l'année 2022. Donc moi, sur 75%, on peut considérer qu'on va atteindre ce cap de formation. Donc j'ai envie de dire bravo. Ça, c'était pour un rapide point sur les chiffres de l'année 2020.
Donc déjà, il y a des gens qui se sont formés, l'objectif est presque atteint, il y a eu un mouvement, ça a changé sur la formation.
Complètement, ça a changé complètement, c'est-à-dire que vraiment les Français ont pris en main leur parcours professionnel et en fait ce confinement qui était le premier confinement qui était vraiment abominable pour la population, il a été utilisé par beaucoup d'entre eux pour se former.
Après peut-être donc c'est deux déjà semaines une bonne nouvelle.
Exactement, en même temps c'est bien parce que ça fait comprendre aux Français que la formation est là, c'est pas simplement, vous allez voir dans les sondages, on va y venir très vite, les gens se plaignent de ne pas avoir le temps. Ben, en fait, c'est bien de ne pas faire que de regarder des séries sur Internet.
C'est un message à la population.
Voilà, message à la population. Vous dites toujours que vous n'avez pas le temps. Supprimez une ou deux séries et formez-vous à la matière que vous voulez.
Alors, qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils se forment et qu'est-ce qu'ils arrêtent?
Donc, déjà, la première raison pour laquelle ils n'ont pas formé, sur les personnes qui ont déclaré qu'ils ne se formaient pas, justement, ils ont dit qu'ils manquaient de temps et aussi d'accompagnement de leur DRH. Donc ça c'est clair, il y avait quand même des mouvements de panique, on va pas le nier. La deuxième, c'est le rythme de la formation qui n'était pas adapté au rythme de la poursuite de l'activité. Évidemment, on comprend bien ce contexte et cette obligation d'adaptation de la formation au marché. Et puis aussi, pas d'offre de formation. Alors ça c'est vachement intéressant parce que ça revient tout le temps dans toutes les études. Les Français ont du mal à avoir une comparer en fait l'offre de formation.
Malgré le compte personnel de formation quand même qui est assez clair sur la question.
Alors, il est bien, il est très bien. Il faut encore travailler le moteur de recherche. Encore, et notamment là en décembre, ça a été décalé de quelques mois, il y a les notations des actions de formation qui vont venir en complément pour indiquer les bonnes formations des moins bonnes, on va dire. Et ça va aider l'utilisateur à trouver ce qu'il souhaite. Mais effectivement, malgré ce travail, qui est un travail colossal, qui n'a pas d'équivalent dans d'autres pays du monde, cette disponibilité de l'accès à l'offre, malgré ça, les Français continuent à dire qu'ils ne trouvent pas d'offres, en tout cas qui correspondent peut-être à leurs demandes. Et vous allez voir, dans les sondages, on a vu que sur les formations qu'ils disent pour l'avenir, les Français ont plein d'idées. Donc c'est aussi certainement une des raisons qui fait que les Français ne trouvent pas forcément l'offre adéquate, c'est qu'ils veulent absolument tout faire. Donc si on prend, pour revenir à la question proposée, les podiums, étonnamment, alors il y a deux formations qui sont arrivées au même niveau. Numéro 1, c'est l'anglais et Excel. L'anglais, j'étais pas très surpris. Comme vous savez, Lingueo, mon organisme de formation, propose ça et c'est
mais
pas
Excel,
pour rien.
Mais Excel, c'est un peu surprenant.
Mais Excel, j'avais envie de dire aux auditeurs, sachez que BFM aujourd'hui vous informe, Excel existe toujours et les gens se forment à ce logiciel. Très surprenant. Alors voilà, en tout cas, ça a été les deux programmations qui sont sorties en premier. Après, il y a eu tout ce qui était réseaux sociaux. Normal, on sent que les gens sont stressés par rapport à ça, ils ont besoin d'acquérir des compétences numériques, ils se proposent ça. Après, l'organisation du temps. Toujours le temps qui revient. Troisième position, l'organisation du temps. Puis après, les HACCP, qui sont des formations obligatoires que je ne connaissais pas. Et donc, je vous informe que c'est sur l'hygiène alimentaire.
D'accord.
On a demandé s'ils étaient à terme, cette fameuse question sur la complétude. Est-ce qu'ils sont arrivés à terme de leur formation? Bonne nouvelle, 69,2% ont dit qu'ils ont fini leur formation. C'est énorme, surtout que sur les 30,8%, il y a 33% de ces gens-là qui restent, qui ont défini qu'en fait, pourquoi ils n'ont pas fini? Parce qu'ils sont encore en train de se former. Donc, clin d'œil à Pareto, ce que ça veut dire, c'est qu'on est à 80% de gens qui vont finir la formation qu'ils ont engagée. Franchement, c'est vraiment quelque chose
Il y a un taux d'abandon qui est très faible.
20% de taux d'abandon, c'est quand même faible, d'autant plus qu'on sait que pendant cette période-là, beaucoup de formations ont été mises à distance du fait de la crise sanitaire. Donc on s'aperçoit quand même que c'est des formations qui sont suivies, contrairement à il y a à peu près 10 ans, où on parlait de tout ce qui était MOOC, avec peut-être un taux de complétude à l'époque de 20%. Donc on a passé du 20% de l'époque au 80% maintenant. Pourquoi ? La raison principale, je pense, c'est que les formations de nos jours, maintenant, sont tutorées. On n'est plus à l'ère du MOOC, on est plutôt à l'ère du SPOC. Donc le SPOC, c'est des petits groupes avec un professeur derrière humain.
Ça veut dire qu'on n'est pas laissé seul devant son écran à s'auto-former avec des docs.
Cette méthodologie-là ne fonctionne pas. C'est ce qu'on s'est aperçu dans les dernières années. Ou fonctionne avec une partie de la population vraiment très faible qui sont les personnes les plus motivées. Maintenant, ce qu'on a constaté aperçu, c'est que pour que la formation soit réalisée, il faut soit qu'elle soit en petit groupe, soit en individuel, ce qu'on dit en anglais one to one, donc tête à tête, très très adapté par exemple pour la formation linguistique. Et pour tout ce qui est autre que formation linguistique, tout ce qui est soft skills, il y a de plus en plus de formations qui sont donc tutorées avec du contenu, bien sûr des vidéos.
Et ça marche.
Et ça fonctionne.
Ça va jusqu'au bout.
Ça fonctionne. Les gens suivent la formation et à la fin sont satisfaits. Parce que finalement, il n'y a que deux taux pour vérifier la satisfaction de l'individu. C'est la complétude et le taux de satisfaction.
Arnaud, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'il y a des secteurs où on suit moins sa formation que d'autres? Est-ce que justement sur Excel, on abandonne? Est-ce que là, vous avez des chiffres?
Non, parce que personne n'a avoué ça.
Ah,
donc,
mince.
Ils n'ont pas avoué les formations qu'ils ont abandonnées. On sait juste qu'ils sont très peu à avoir abandonné. Et on sait que pour l'année prochaine, ils sont énormément à vouloir se former. L'étude BVA que j'avais fait avec nos partenaires de Youno le confirme. Il y a plus de 60% des gens qui veulent se former l'année prochaine. Et il y a de tout, par contre. Pour le coup, c'est vraiment beaucoup de matière.
Donc, l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à combien de formations?
1 500 000 de personnes formées.
Optimiste sur les 1 500 000.
Moi, je pense qu'on fera mieux.
Je pense
que d'ici 2022, avec tout ce que fait la Caisse des dépôts et le gouvernement, clairement, on fera mieux avec des formations de plus en plus qualitatives.
Et c'est une excellente nouvelle. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Arnaud Portanelli, d'avoir travaillé pour moi. Merci, cofondateur de Lingueo. J'ai encore du petit travail pour vous après l'émission. Merci. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine dans Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.